Parents d'élèves réclament des postes et des crédits pour l'éducation. Ils ont défilé ce matin à Bobigny entre l'inspection académique et la préfecture. L'intersyndicale, qui avait appelé à cette manifestation, estime que 450 postes de titulaires devraient être créés pour remédier au remplacement des maîtres absents. Alain Juppé n'est pas un anti-Sarkozy, mais il n'a jamais cru à la rupture, cher au chef de l'État. Propos assénés dans les colonnes du Monde, daté de dimanche lundi. L'ex-premier ministre, qui a la fibre gaulo-chiracienne, avoue avoir de l'amitié pour Nicolas Sarkozy. « Je me considère dans la majorité, dit-il, mais avec ma liberté de parole. » Et il redit être prêt à présenter, le cas échéant, une offre alternative pour 2012. Exploit réussi pour Jean-Louis Etienne qui vient de boucler la première traversée de l'Arctique en ballon. L'explorateur s'est posé en douceur ce matin en Sibérie, à environ 250 km au nord de Batakaï. Il était parti le 5 avril de l'archipel norvégien de Spitsberg. Jean-Louis Etienne a parcouru 3130 km en un peu plus de 121 heures. Il est le premier à avoir réussi cette traversée en survolant le pôle Nord en ballon. Il avait été déjà le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire en tirant lui-même son traîneau pendant 63 jours. C'était en 1986.
J'apporte les croissants. Debout. Laurence Garcia. Debout.
Comment réussir à la télévision quand on est petit?
Breton, pour pas dire gâteau.
Avec de grandes
oreilles.
Alors comment on réussit, Philippe Gildas?
En ayant des cheveux pour les cacher.
Et les jeunes qui poussent derrière là, qui disent Gildas, dehors, dehors.
Et vous savez ce que je leur dis?
Non, dites-moi.
Patience.
Rendez-vous demain matin dès 5h du mat. À demain, Philippe Gildas.
À demain.
Rendez-vous dimanche pour le 5-7 du week-end avec Laurence Garcia.
France Inter présente Patricia Petitbon, Rosso. Patricia Petitbon interprète avec passion de sublimes airs baroques italiens. Un voyage contrasté à travers la force des sentiments. Retrouvez Patricia Petitbon dans Carrefour de l'Odéon la semaine du 19 avril.
Dans quelques secondes, 14h05, lors de retrouver CO2 Mon Amour avec Denis Chessou qui a un magnifique t-shirt.
Oui, il y a marqué 30% de CO2 en moins, 100% de plus pour la planète. Hein.
Ben voilà.
Et voilà, c'est ça. Et puis en plus, il fait beau, donc on va fêter le printemps au cours de cette heure. Merci à vous, Dominique. On vous retrouve pour les informations de 15h.
CO2 Mon Amour avec Melvita, cosmétique écologique et biologique en pharmacie et boutique bio. Rendez-vous sur melvita.com.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. CO2 Mon Amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. Et avec aujourd'hui Dimitri Gronoff et Grégory Wallon à la technique, et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza, du côté du lac d'Annecy, oui c'est là qu'il habite, et Xavier Pestugia réalise cette émission. Allez, une petite rumeur. Ah non, pas nous, pouf pouf. Donc je recommence, une petite humeur, oui, joueuse et tout à fait légale, puisqu'après les paris en bourse, les subprimes et autres martingales de la finance réservées aux joueurs professionnels, eh bien nos députés ont voté mardi l'ouverture au grand public des jeux d'argent sur Internet. On le sait, une attente sociale très forte, hein, comme on s'en doute. Qui veut paumer des millions? Formidable! Chers amis auditeurs, donc vous qui avez étudié les grands maîtres du poker menteur, Steve McQueen, Henry Fonda, Claude Allègre et j'en passe, eh bien vous aussi transformez dès maintenant votre salon en tripot. Confortablement installé devant votre ordinateur, tremblez au cri du but marqué pendant les arrêts de jeu. Piochez la carte qui ne changera pas votre brelan en carré d'as et d'un clic de souris, perdez assurément quelques centaines d'euros. Avec la nouvelle loi, c'est possible. Et contrairement à feu notre regretté taxe carbone, à 2 mois de la Coupe du Monde de football, eh bien les volontaires se bousculent déjà pour payer la taxe sur les paris en ligne. Mais ne soyons pas petits bras, faut pas en rester là, faut aller plus loin. À quand les paris sur l'avenir du projet de loi Grenelle 2? Oui, sur les 273 mesures, combien résisteront au détricotage de la majorité de la FNSEA et du MEDEF? 10, 20, 30%, faites vos jeux. Quelle est l'espérance de vie du grand hamster d'Alsace? Combien la nouvelle autoroute Pau-Langon dégagera de CO2 en plus? La fin du monde, cher aux marchands de peur, c'est pour 2012 ou un peu plus tard? Bon, et puis dans l'actualité, parions aussi que les 33 000 tonnes d'uranium expédiées vers la Russie par par EDF et Areva pour y être enrichis. Ne retrouverons pas de sitôt le chemin du retour. Du côté des agrocarburants, allez, on fait les paris, rien ne va plus. L'ADEME nous explique que les carburants à base de canne à sucre, grands consommateurs de forêts tropicales, émettent au bout du compte plus de CO2 que notre bon vieux gasoil. Bref, le jeu des agrocarburants de première génération n'en vaut pas la chandelle. Vous me ramassez vos jetons et vous misez le tout sur l'isolation de la maison. Parions aussi avec la Ligue pour la protection des oiseaux que ce n'est pas tout à fait par hasard si pour le week-end de Pâques, un club de chasseurs de la commune de Vouray, en Isère, a organisé une séance de baltrap version roulette russe au bénéfice d'une colonie de hérons en pleine période de reproduction, bien sûr. On passe aussi aux bonnes nouvelles quand même. Et oui, les astronomes de la NASA, qui sont si bien connus des joueurs invétérés, ont gagné leur pari. Hier, vers 4h du matin, l'astéroïde 2010 GA6, vous dormiez, vous vous en foutiez complètement, et bien oui, elle est passée sans encombre à 430 000 km de notre petite planète et nous a épargné une sixième grande extinction des espèces que nous sommes par ailleurs fort capables de provoquer nous-mêmes. Alors dernière question, les êtres humains parviendront-ils un jour à vivre en paix entre eux et avec le reste des habitants de la planète? Ah bah alors là, les paris restent très ouverts. Comme nous sommes des gens prudents, on n'allait quand même pas vous faire l'émission spéciale printemps le 21 mars. Non, souvenez-vous, à cette époque-là, la France était complètement recouverte de pulls verts. Et on va se faire une petite ronde de printemps. Donc aujourd'hui, on a pris nos précautions. On va partir en Camargue, dans le Limousin, dans la baie de Somme, dans le très beau département du Jura. Nous allons aussi nous retrouver, ah oui, là c'est très intéressant, dans les terres du côté d'Amsterdam. Alors vous dites, ah oui, je connais. Non, ça c'est chez nous, c'est les terres arctiques australes. Donc voilà, le printemps est un peu différent là-bas, et puis aussi en Guyane du côté des marais de Caux. Mais nous allons aussi aller en Lorraine quasiment immédiatement pour retrouver un ami lorrain, donc Jean-Marie Pelt, avec ses dons secrets de la nature. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors je parle de la Lorraine parce qu'on va traverser votre Lorraine, on va se retrouver avec les Vosges, et puis on va redescendre après sur l'Alsace pour découvrir un animal qui s'appelle le grand hamster, tout à fait emblématique de la nature alsacienne.
Oui, et qui est présent dans une partie de l'Alsace seulement, qui est un animal qui est très solitaire et qui est un animal qui est très menacé parce qu'il ne vit que là. Et il a été très perturbé en tant qu'espèce par le fait que l'agriculture a radicalement changé, qu'on ne sème plus de blé en Alsace, qu'on ne cultive plus de trèfle ou de luzerne comme autrefois, mais qu'on est passé au tout maïs. Quand vous traversez l'Alsace en train, vous êtes stupéfait de voir ces étendues immenses de maïs. Or, le hamster ne se nourrit pas de maïs.
Le hamster n'a pas compris les ambitions de la PAC.
Pas du tout compris. Alors, il est en régression. Les écologistes alsaciens, Alsace-Ceinture en particulier, sont très attentifs à sa survie. Comme son territoire est morcelé par les grands travaux de génie civil, notamment les lignes TGV, les autoroutes qui ne sont pas encore finies d'être construites en Alsace, on a inventé des systèmes pour que le hamster puisse traverser des systèmes de communication.
De même qu'il y a des crapauducs, on a inventé les hamsteroducs.
Des hamsteroducs. Alors, ils ne les aiment pas. Ils s'en foutent, ils ne vont pas dedans. La population d'hamster, elle est de l'ordre de 600 individus, c'est très peu. Oui. Elle continue à baisser. Et évidemment, l'Alsace considérerait comme une infamie que le hamster, qui est une des espèces emblématiques les plus protégées en France, disparaisse. Alors, les écologistes ont bien fait, à mon avis, de déposer une plainte à la Cour de justice européenne qui a été reprise par la Commission européenne contre l'État français, qui est considéré comme ne faisant pas assez d'efforts. Pourtant, il fait des efforts. Il y a des aides qui sont apportées aux paysans qui changent leur mode de culture, mais ces efforts, apparemment, ne sont pas tout à fait suffisants. Alors, voilà l'histoire d'une espèce qui, apparemment, ne nous sert à rien, mais qui fait partie d'un écosystème, et qui est menacé parce que cet écosystème a changé. C'est un cas très précis de scénario écologique qu'on peut transférer à l'homme lui-même. L'homme modifie complètement son écosystème et peut tout d'un coup être menacé lui aussi par le même mécanisme exactement que celui que nous voyons jouer ici. Alors j'ai plus près de moi d'un territoire intéressant qui est le marécage ou le marais de Valmont.
Donc là, nous sommes en Moselle, chez vous.
Maintenant, nous sommes rentrés en Moselle, et qui est une zone qui est très proche de la grande plateforme chimique de Carlin, très proche aussi d'une voie ferrée, donc au cœur vraiment de la Lorraine industrielle, ou de ce qui en reste, à savoir la chimie. Bien, les écologistes se sont intéressés à ce marais, qu'autrefois on aurait eu tendance évidemment à assécher au plus vite, parce que les marais étaient très mal vus, on considérait qu'ils étaient les vecteurs des miasmes et de toutes sortes de maladies qui étaient liées à ces marées.
Et des sorcières.
Et des sorcières, absolument. Mais aujourd'hui, le point de vue a complètement changé. D'une part, on sait que les marées sont des réserves très importantes de biodiversité, et on en a eu la preuve en faisant l'inventaire de ce marais. C'est une société qui s'appelle Aesop, c'est très joli, qui a fait cet inventaire. Ce sont des écolos. Ils sont à Agondange, absolument. Et alors, regardez ce qu'on trouve dans un marais comme cela, qui est très petit. 94 espèces de plantes différentes. C'est considérable. Sur une toute petite surface. 31 espèces de papillons. 7 espèces de libellules. 7 espèces de criquets. 8 espèces d'amphibiens. 70 espèces d'oiseaux, dont le busard des roseaux, qui est un oiseau très connu, ou le héron pourpré aussi. Alors, on a donc décidé de protéger ce marais.
Parce que c'est vraiment une mosaïque végétale.
C'est une vraie mosaïque végétale. Et ça montre combien, même sur des superficies relativement étroites, puisqu'ici, il s'agit de quelques dizaines d'hectares, c'est pas très grand, on a cette fameuse biodiversité. Alors, on va dire, mais pourquoi ne va-t-on pas remettre en culture un marais comme celui-là? Eh bien, parce que ce marécage rend des services. Quels services? Eh bien, d'abord, il purifie l'eau. Nous sommes dans une zone industrielle, l'eau est menacée, et les bactéries qui sont liées aux racines de ces plantes d'eau transforment les déchets toxiques et les dépolluent par conséquent l'eau. D'autre part, ces marées retiennent l'eau en période de crue, c'est-à-dire qu'ils diminuent la puissance des crues, et ils retiennent l'eau aussi pour les périodes d'étiage.
Oui. Et ils quand maintiennent le débit des rivières.
Et ainsi, voilà, quand une rivière est à sec, eh bien son débit peut continuer néanmoins à exister, parce que le marais a régulé. Donc c'est un puissant régulateur. C'est un régulateur de crue et c'est un régulateur de la qualité de l'eau. Et ceci nous attire notre attention sur un point qu'on ne voit pas du tout, c'est que la nature rend des services. On sait que la nature nous offre des ressources, bien sûr, les ressources des mines, les produits agricoles, on en parlera, les produits pharmaceutiques, la cosmétologie, les fibres, le bois, etc., les aliments. La nature nous offre tout ça.
Ça, c'est ce que l'on puise directement.
C'est ce qu'on puise directement. C'est ce qu'on appelle les services de prélèvement. Et puis, il y a des services qui sont tout à fait différents, comme celui que je viens d'évoquer, où le seul fait que la nature est là nous rend des services très importants, par exemple, dans le cas de ce marais, en matière de régulation des cours d'eau et en matière d'épuration des eaux lorsqu'elles sont contaminées dans une région industrielle comme celle de Carlin.
Merci beaucoup Jean-Marie Pell, et puis merci aussi pour ce plaidoyer pour le grand hamster. Et à très vite, à la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous. Baiser reçu.
Merde, moi. J'en ai marre de la verdure. Tout est vert.
Faudrait venir l'été.
Parce que tu trouves ça calme, toi.
Ah oui.
Il commence à me taper sur le système, ces oiseaux.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Oui, un de nos classiques, on ne s'en lasse pas avec Xavier Pessugier, notre réalisateur. Et donc, on va débuter cette ronde de printemps avec nos différents naturalistes et hommes de terrain. Et on va aller tout de suite dans la direction du sud, dans le Midi. Nous étions dans une zone humide avec Jean-Marie Paltéba. On va y rester parce que c'est quand même une des plus grandes zones humides françaises, à savoir la Camargue. On va rejoindre Michel Gauthier-Claire, qui est ornithologue à la Tour du Valat, au centre de la Tour du Valat. Michel, qu'est-ce que l'on y fait à la Tour du Valat ?
Ben là, la Tour du Valat, c'est un centre de recherche sur les zones humides de Méditerranée. Donc, on travaille à conserver ces zones humides sur l'ensemble du bassin méditerranéen.
Alors, vous êtes dehors ou presque dehors là en ce moment. Bon, grand beau temps aujourd'hui, sans problème. Qu'est-ce que vous avez sous les yeux ?
Ben là, ce matin, par exemple, j'ai vu mes premiers guêpiers hein, qui reviennent d'Afrique. Donc, c'est les tout premiers. On aura bientôt des vagues un peu plus importantes là, dans quelques semaines. Et puis là, ce qu'on voit depuis des semaines, c'est des vagues de passereaux en fait, qui se succèdent sur les plages de Camargue. Mmh. Donc on a eu les rouges-gorges en mars, les fauvettes à tête noire. Et puis maintenant, on a les pouillophytis, les rouges-queues à front blanc. Et puis bientôt, on va avoir des vagues de rousserolles, gobe-mouches, comme ça, qui se succèdent et qui font une petite pause ici en Camargue pour manger.
Alors nous sommes dans une zone humide. C'est aussi une zone qui est en constante mutation.
Oui, alors la caractéristique de la Camargue, en fait, c'est ces très grands espaces. Mais également extrêmement diversifié, on appelle ça une mosaïque d'habitat. Donc on a des très grandes roselières, des très grands marais, des très grandes lagunes, et puis avec des ressources alimentaires extrêmement importantes en plantes, en insectes, qui fait qu'il y a énormément d'oiseaux qui vont s'arrêter ici pour manger, pour faire une petite pause avant de remonter vers l'Europe du Nord ou la Sibérie, et puis aussi qui vont s'arrêter pour se reproduire au printemps.
Pourquoi c'est un milieu fragile, cette Camargue ?
C'est un milieu fragile parce qu'on a un peu une sorte de petit îlot de nature, même si c'est un grand espace naturel au niveau européen. On a un petit îlot de nature en fait qui est encerclé maintenant par une urbanisation qui est extrêmement importante entre Montpellier, Avignon, Marseille. Et on se transforme de plus en plus en un petit îlot au milieu d'un espace extrêmement humanisé.
Quelle couleur vous avez là, les couleurs de printemps que vous avez sous les yeux ?
On a c'est très ensoleillé aujourd'hui, donc en fait on a toutes ces roselières en fait qui sont en train d'exploser avec leurs oiseaux. On a les tamaris qui commencent à reprendre leurs feuilles. On a aussi les plages qui reprennent de la vie avec tous ces petits passereaux qui vont s'arrêter pour manger les insectes qui commencent à exploser là depuis quelques semaines.
J'aimerais rajouter une petite touche de rose. Évidemment, ça fait carte postale, mais si on parle du flamand, où en est-il cet animal-là ?
Alors là, les flamants roses, maintenant, ils sont tous revenus soit d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale. Il y avait ceux aussi qui avaient passé l'hiver ici. Et puis actuellement, là, donc cette semaine, ils sont en train de parader autour de leur îlot de reproduction. Et normalement, on devrait avoir les premiers œufs la semaine prochaine. quotidienne. Et puis d'ici quelques semaines, on s'attend à avoir à peu près 10 000 couples qui vont se reproduire là sur l'îlot. Au sud de la Camargue.
Ils sont plutôt pacifiques, ça se bagarre, les flamants roses entre eux, comment ça va
commencer ? Ah ben, entre eux, oui, ça se bagarre. Alors, c'est un oiseau qui a la caractéristique de divorcer chaque année. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de concurrence, en fait, entre les couples. Donc, là, ils paradent, mais il y a également aussi beaucoup de concurrence entre eux.
D'accord, donc c'est un boulot formidable pour les avocats. Donc, devenir avocat de flamants roses, c'est un truc d'avenir. Hein, donc,
sûrement, oui.
Ouais, bien sûr. Ces fameux flamants roses, cette couleur, on parle de la nourriture. Donc, ils prennent à travers des crevettes, à travers quoi ?
Oui, donc cette couleur, en fait, c'est vraiment lié aussi à la reproduction, aux parades entre eux. C'est lié aussi à la consommation donc, de caroténoïdes qu'ils peuvent trouver effectivement dans leur alimentation, qu'ils vont trouver dans ces zones très salées du sud de la Camargue. Donc des alimentations très chargées en caroténoïdes qui vont pouvoir faire exprimer cette couleur rose.
Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce lieu, dans cette tour du Valat, dans cette Camargue, parce que vous y êtes déjà depuis un certain temps et vous n'avez pas tellement envie de vous en passer ?
Ce qui est fantastique, en fait, en Camargue, ce sont ces grands espaces immenses. Et puis, c'est toutes les semaines, on a quelque chose qui change. Donc, on a eu, là, il y a au mois de mars, on avait encore des oiseaux comme le cygne de Bewick qui est retourné maintenant en Sibérie au Taïmyr. Maintenant, on a des oiseaux qui arrivent du sud du Sahara. Et tout le temps, ça change. Toutes les semaines, on a une vague d'espèces différentes. Et donc, on peut jamais se lasser de ce qu'on voit. Et on peut tomber sur n'importe quoi à tout moment. Ici en Camargue.
Bon, écoutez, je vous laisse reprendre vos jumelles, vous abandonner le téléphone et puis on vous souhaite une belle après-midi. Merci Michel Gauthier-Clair et à très bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Vois ce miracle qui devait arriver. C'est la première chance, la seule de l'année, au printemps.
Oh bah oui, c'est une petite virgule comme une autre sur France Inter, c'est Haut de mon amour. Et donc on poursuit ce voyage, on est parti du sud de la Camargue. Et on va rejoindre Jean-Michel Tellier, on va faire une belle halte dans le Limousin. Jean-Michel, bonjour à vous.
Oui, bonjour Denis. C'est difficile de passer derrière la Camargue.
Non, c'est pas mal parce que vous avez un territoire quand même qui est assez fabuleux. Alors moi, je tiens à rappeler que d'abord, vous travaillez aussi au centre de nature qui s'appelle la Loutre, car nous avons des loutres sur le plateau des Mille Vaches, ce qui prouve effectivement que le territoire est bon, donc au sein de Limousin Nature Environnement, qu'on peut vous écouter tout à fait régulièrement avec Naturellement et Destination Nature sur France Bleu Limousin. Et alors là, on est chez vous, dans ce qu'on appelle la Saintrie. Ça s'écrit avec un X, hein. Je sais pas, on dit la Saintrie ou la Xintrie, non, on dit... Là.
On va dire plutôt avec un S, la Saintrie. Alors c'est vraiment un territoire qui est très méconnu, même des Limousins d'ailleurs. Ouais. On se trouve complètement à l'extrême sud-est de la région, dans le département de la Corrèze, et c'est frontalier avec le département du Cantal que je vois, alors qu'il est, puisque la chaîne des Puits est encore sous la neige. Ça aussi, c'est un des petits mystères de ce printemps de cette année, parce que la neige, pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu beaucoup de neige qui est tombée pas très très loin d'ici. Et en effet, cette Saintrie, elle est plutôt très attachante, avec de très belles populations de loutres. Vous l'expliquez, en Limousin, c'est vrai qu'on a une qualité d'eau qui est assez remarquable, et puis des territoires très accidentés, des territoires où l'eau et la forêt dominent, et puis aussi, et il faut absolument en parler, un patrimoine architectural à couper le souffle. Je me trouve sur la petite commune de Saint-Bonnet-les-Tours, 40 habitants sur cette commune, et des maisons au toit de l'Auze, avec un granit blond, et donc un patrimoine vraiment qui fait vraiment le cachet de cette région.
Et lorsque vous levez les yeux vers le ciel, eh bien, vous regardez les grues, parce qu'on est vraiment sur l'autoroute des grues, là, on est en plein cœur d'une zone de passage assez incroyable.
Alors ça, c'est merveilleux. Et c'est vraiment le signe, le premier signe du retour des beaux jours, et ça, c'est immuable, qu'il fasse froid ou pas froid, quoi qu'il en soit, dès fin février, les grues passent en Limousin, et je peux vous assurer que chaque année, ça fait la une de l'actualité, la télé, la radio, la presse en parle, parce que forcément, c'est synonyme du retour des premiers beaux jours, même si, quoi qu'il en soit, qu'il fasse beau ou pas beau, chaud ou froid, les grues, et ça sera plutôt la photopériode, la durée d'ensoleillement, eh bien, elle passe toujours à la même période, fin février, début mars. Et en effet, comme vous le disiez, Denis, on est sur cette autoroute large de 200 km. Et en cela, d'ailleurs, on a cet avantage sur la Camargue, c'est que nous, on est en plein milieu de cette autoroute et on a un spectacle formidable chaque année, 200 000 oiseaux qui remontent vers leur Suède, Norvège, Finlande, natale. Et ça émeut les Limousins toujours. Et ça, c'est beau.
Et qui sont partis donc de très, très bas. Enfin, ils sont partis d'Espagne ou bien d'Afrique.
Alors, essentiellement l'Espagne. Les grues qui passent au-dessus de nos têtes, elles vont passer l'hiver du côté de l'Estramadour, l'Andalousie, et elles remontent donc en Scandinavie.
On a eu un froid quand même tout à fait persistant, on le sait, sur toute la France, avec de fortes précipitations. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à ce printemps 2010 ?
Honnêtement, je crois que vos collaborateurs à travers la France vont dire à peu près la même chose. On a eu l'impression cette année, mais c'est pas seulement qu'un mythe, hein, ça a été démontré par des statistiques météorologiques, qu'on a cheminé dans un tunnel d'ombre. Il y a eu très très peu de soleil, un hiver qui a joué les rallonges en quelque sorte. Pour le retour des migrateurs, ils sont arrivés comme tous les ans, toujours à la même période. Les oiseaux migrateurs sont arrivés fin février pour le milan noir. Début mars pour les premières petites hirondelles. Ça a dû être très difficile pour ces oiseaux, soit charognards, soit insectivores, parce qu'en arrivant en Limousin, comme partout en France d'ailleurs, ils se sont confrontés à du mauvais temps, du froid, et qu'il est particulièrement malaisé pour des petits organismes vivants de quelques 18 grammes, par exemple comme les hirondelles, de trouver de la nourriture correctement sous nos latitudes. Et là, enfin, aujourd'hui, vous avez bien choisi Denis, parce que cette journée est merveilleuse, on commence à entendre la plupart des migrateurs s'installer chez nous parce que le soleil est là et donc les insectes émergent. J'ai entendu mes premiers hyménoptères, comme on dit, mes premières abeilles bourdonner tout à l'heure, donc ça c'est bon signe.
Et puis Jean-Michel, vraiment juste un mot en 10 secondes, si on regarde aussi la nature, on va regarder la végétation, est-ce bien le prunelier chez vous qui fleurit le premier dans le Limousin ?
Oh que c'est beau. Alors traditionnellement c'est fin février, là on a 3 semaines de retard. Autant la faune a été aux heures, au rendez-vous, je dirais, autant la flore est vraiment en retard, 3 semaines. Et tout à l'heure, je voyais ces petits pétales blancs qui volaient au vent. Ça aussi, c'est un petit spectacle de la nature qu'il faut absolument profiter en Limousin comme partout ailleurs.
Mais écoutez, en vous écoutant une fois de plus, c'est un véritable régal. On se retrouvera sur un reportage qu'on a effectué, nous, ensemble, du côté des 1000 vaches prochainement. Mais on comprend bien que nos amis de France Bleu Limousin vous gardent naturellement et destination nature. Merci beaucoup, Jean-Michel Tellière, et à très vite.
Au plaisir.
I'll never know why I never said bye.
Très agréable cette balade choisie par Muriel Pérez, notre programmatrice The Two sur France Inter. Et cette balade, eh bien, on va la poursuivre en allant dans un très beau département qui est celui du Jura, avec une mosaïque assez incroyable. C'est encore, on parle très souvent de Petit Canada, mais enfin, quand vous êtes vraiment sur la partie basse, là vous avez des vignes, du vin jaune, donc c'est pas du tout le Canada, mais c'est ça qui est intéressant dans ce département. Et on va rencontrer deux personnages qui vont nous le faire découvrir et aussi donc nous parler du printemps. Christian Bonneret, qui est un naturaliste depuis très longtemps. Il était champion de France de javelot aussi, il faut le savoir. Voilà. Et donc maintenant, il est dans un gîte panda, les éoliennes qui se trouvent dans la région des lacs du côté de Ilet. Et puis Didier Méjard, qui est un randonneur à cheval, donc au Franoise. Tout ça est à côté des sources du Hérisson, du côté du lac de Bonlieu, donc si vous connaissez. Et avec lui, on va partir dans ce premier personnage du Jura qu'est la forêt.
La superficie forestière a doublé en 100 ans ici, à cause de la déprise agricole, donc de l'abandon de beaucoup de terres par l'agriculture. La forêt regagne tout le territoire. Et d'ailleurs, le mot Jura vient d'un vieux mot françois, joux, J-O-U-X, qui voulait dire la montagne boisée. C'est-à-dire qu'à l'origine, les montagnes du Jura étaient pratiquement totalement boisées. L'homme a défriché pendant des siècles, et depuis 100 ans, l'homme abandonne un peu la terre, et c'est la forêt qui regagne.
D'ailleurs, on a la forêt de Joux aussi, hein, donc J-O-U-X.
Oui, la forêt de Joux, les villages de la Joux, Mijoux, là on est tout près de Ménétru-en-Joux, c'est un mot qu'on retrouve partout. Joux a fait Jura.
L'arbre emblématique du Jura, qu'est-ce que c'est ?
C'est l'épicéa, quoi, l'apès qu'on appelle ici. Et il y a des forêts pas très loin d'ici, sur le Haut-Jura, la forêt du Massac, la forêt du Rizou, où on trouve la plus belle qualité de bois d'épicéa. On appelle ça le bois de résonance. Et c'est avec ce bois-là qu'on fait les tables de violon, par exemple, pour les instruments de musique. Et on dit que des luthiers célèbres, genre Stradivarius, venaient jusque dans la forêt du Rizou choisir un arbre pour faire un violon. Ce bois d'épicéa est un bois de très grande qualité parce que l'hiver étant très long, l'arbre pousse très lentement. D'ailleurs, les charpentes des fermes du Haut-Jura qui doivent supporter des tonnes de neige sur le toit sont faites non pas en chêne mais en sapin ou en épicéa, quoi. Voilà.
Donc une fois de plus, c'est du temps qu'il faut, quoi, alors, pour avoir un bon produit.
Ah ben oui, c'est clair que quand on veut aller vite, on ne fait pas bien les choses. Hein. Ouais. Beaucoup de domaines, c'est un peu comme ça. Un des grands atouts du Jura, c'est la diversité des paysages sur un territoire relativement petit. Quand on est dans le Haut-Jura, qui est un pays quand même rude, hein, voire un peu austère, magnifique, sauvage, mais rude et austère, et à deux jours de cheval, vous descendez dans le bon pays, comme disent les Jurassiens, c'est-à-dire le Revermont, et là où presque tout pousse, il y a des arbres fruitiers, il y a la vigne, et les reculés.
Alors, ce qu'on appelle des reculés, ça c'est intéressant, qu'est-ce que c'est exactement ?
Les reculés, c'est des vallées profondes et encaissées, typiques des massifs calcaires et qui sont fermés. C'est-à-dire on ne peut pas remonter une reculée d'un bout à l'autre. C'est un espèce de cul-de-sac. Il s'imaginait un cirque, mais un cirque allongé. En fait, c'est les eaux qui arrivent du Haut-Jura, qui arrivent sur le premier plateau, qui trouvent un calcaire un peu plus tendre et qui commencent à creuser l'équivalent d'une vallée. Les glaciers subalpins qui sont allés jusque dans le Jura ont complètement écartelé cette vallée et ça nous a donné ces reculés magnifiques, celles de Baume-les-Messieurs, de la Franée, de la Doye.
Alors on a les reculés, on a les combes.
Et les combes, le Haut-Jura est une succession de combes et de craies. Et les craies, c'est le vent au fur et à mesure qu'on s'approche de la frontière suisse vers l'est. Et donc les combes, c'est une dépression entre deux... C'est un creux entre deux craies. Et quand on traverse le Haut-Jura, par exemple, d'est en ouest, on passe de combes en craies, les craies couvertes par la forêt et les combes ouvertes pour l'agriculture. Ça fait encore une diversité de paysages superbe, quoi.
Voilà. De l'eau qui gargouille un petit peu partout, de la douceur de plus en plus forte, on va dire. Et puis donc un soleil de printemps qui s'est déjà installé. Ah, ça y est, là on rentre sur le sentier botanique de Christian Monneret. Donc toujours dans le Jura. Merci beaucoup. Hop. Avec des traces. Bah oui, évidemment qu'on a des traces de bêtes. Qu'est-ce que c'est ? On doit avoir du renard, du lièvre ?
Oui, on a du renard et puis on a pas mal de chevreuils et de chamois également. Sinon, il y a également des hermines là, dans les petits murgers là, qu'on voit encore bien se promener. Ouais. Et puis souvent qui jouent autour. C'est assez marrant d'ailleurs à regarder les hermines. Hein. Ça va dans tous les sens, ça joue comme des petits chats, comme des petits chiens. C'est assez intéressant.
On est dans la région des Grands Lacs. Et on est avec vous pour parler du printemps. Alors, on va le dire tout de suite, c'est vrai que le printemps dans le Jura, c'est pas encore immédiatement, c'est en train de se lever. On voit très très bien, il y a encore des plaques de neige. Mais ça va arriver vraiment quand? Ça va flamboyer
voilà, quand? Ben là, c'est très variable. Vous avez des années, si vous voulez, moi, sur mon sentier botanique, ça varie du 1er avril au 1er mai. Mais ça explose très rapidement. Vous voyez, en montagne, dès que le printemps arrive, tout va exploser en 15 jours. Hein. Ouais. Donc au départ, bon, on a les crocus, hein, bien sûr, donc blanc ou violet, c'est la même variété, mais enfin il y a deux couleurs. On a les primaires, différentes primaires, et puis on a le bois joli, qui est un daphné qui fleurit lui-même encore plus tôt. Le ouais. Bois joli, on le voit souvent fleurir en plein hiver, au mois de mars. Tenez, vous en avez ici d'ailleurs.
Ah ouais. Oui.
Allez. Donc ça nous donne une fleur rose très odorante. C'est un arbuste qui ne devient jamais très grand, vous voyez, il reste un petit peu en sous-bois. C'est un arbuste toxique qui va nous donner une baie rouge, très attirante pour les enfants, mais c'est un poison mortel.
Christian Monneret, quel est l'avantage de la neige? Qu'est-ce que ça préserve? Qu'est-ce que ça nourrit?
Ben, l'avantage de la neige, vous avez des plantes qui ne pourraient pas pousser correctement s'il n'y avait pas ce manteau neigeux en hiver et cette froidure qui dure, hein, en particulier dans les tourbières, les tourbières n'existeraient pas s'il n'y avait pas ce froid qui se maintienne dans ces creux où sont nées les tourbières.
Allez, là on continue donc avec Christian Monneret. Là on passe sous cette frondaison.
Voilà, donc là vous voyez, on arrive dans une zone qui est relativement humide, hein, puisqu'on est dans un fond de vallée qui est couvert de roches calcaires. Et dès qu'il pleut ou à la fonte des neiges, l'eau vient s'accumuler dans ce fond de vallée, et ce qui fait qu'on a des plantes de milieu humide. On a par exemple, vous voyez là, les crocus qui commencent à sortir. Vous avez là l'aubépine. Ça annonce vraiment, c'est vraiment l'arbuste du printemps.
Eh bien, merci pour cette balade printanière et pré-printanière à Didier Méjard et à ses chevaux hein, que l'on retrouve du côté du Franois. Il y a des bonnes bêtes là, qui tiennent bien la route pour l'hiver parce que ce sont des poneys fjords norvégiens qui sont croisés avec des chevaux de sel. Ça vous supporte un hiver bien rigoureux. Et puis à Christian Monneret, qui se trouve lui à Illet avec son sentier botanique. On va poursuivre le voyage. Vous allez voir, on va partir vraiment très loin. Là.
C'est le printemps. Les cailloux sont en fleurs. J'entends le gazouillis des éléphants dans le feuillage des poteaux télégraphiques.
Tiens, prends ça.
Qu'est-ce que c'est?
Rien, un petit calmant, t'as l'air d'avoir un peu de fièvre.
Mais non, ça va très bien.
Enfin, t'entends quand même le gazouillis des éléphants dans les poteaux télégraphiques.
Oui.
Oui.
Ah oui, et c'est normal. Et oui, vous écoutez, c'est Au Deux Mon Amour, c'est en direct, c'est sur France Inter, et on va aller loin, dans une réserve naturelle de France. C'est une des plus importantes, peut-être pas la plus importante, mais quand même, on va parler du côté de la Guyane, on va aller au sud-est de la Guyane, rencontrer le président de cette réserve, qui est Anatole Justin, donc cette réserve des marais de Couaux. Alors vous imaginez des forêts marécageuses, de la mangrove, quelques jaguars, un oasin, ça c'est un oiseau qui est tout à fait unique, parce que c'est le seul oiseau ruminant au monde. Des ibis rouges. Et puis donc, Anatole Justin, vous ouvrez la fenêtre. Racontez-nous.
Nous sommes au cœur du marais de Couaux, appelé marais de Couaux par les scientifiques, mais localement appelé la savane de Couaux. Pourquoi? Tout simplement, à une période de l'année, il y a des crues. Et vous avez toutes les savanes qui sont asséchées. Donc, c'est 100 000 hectares de zone humide coincée entre la zone côtière, les mangroves, et les terres inondées. Une partie de l'année, tout simplement, bordée par des montagnes à forêts rabougries, pinotières et forêts primaires, avec une biodiversité exceptionnelle, faune, flore.
Et donc, vous n'avez pas de mercure, évidemment, dans votre coin à vous, hein, parce qu'on ne va pas chercher de l'or. Hein. Et oui, c'est ça.
Du tout.
Puisque nous sommes au printemps, Anatole Justin, il faudra quand même rappeler une petite chose, c'est que chez vous, il y a deux saisons. Voilà.
Deux saisons.
Alors, on rentre dans la saison, quoi. On est dans la saison des pluies.
Alors, nous sommes en plein dans la saison des pluies, mais on a une particularité depuis quelques années. On a ce qu'on appelle le phénomène El Niño. Aujourd'hui, nous avons, je dirais, c'est mi-figue, mi-raisin. On a des semaines de pluie, et puis après, on voit apparaître le soleil qui nous donne la petite été de mars qui se prolonge encore.
Parlez-nous s'il vous plaît quand même de cet animal assez étonnant qui est le caïman noir. Pourquoi est-ce qu'il se trouve bien dans ces marais ?
Eh bien, on a la chance d'avoir les derniers groupes plus importants de caïmans noirs qui sont dans ces lieux qu'on appelle le sanctuaire des caïmans noirs.
Bon, alors comment ça, par rapport à ce milieu, donc il y a un écosystème, ils vivent avec d'autres poissons, comment ça se passe ? Ce sont les prédateurs suprêmes du marais ?
Ben, il y a une biodiversité également en espèces de poissons de toutes sortes. On a un poisson tout particulier qu'on ne retrouve pas ailleurs, ce qu'on appelle l'atipa. C'est un poisson préhistorique avec une carapace, je dirais, féodale. Voilà. Mais qui est très consommée par la population guyanaise.
Votre printemps pluvieux va durer combien de temps ? Là, c'est parti jusqu'au mois de...
Alors, c'est parti jusqu'à la fin du mois de juillet, notamment si les choses retrouvent leur normalité. Ça va être début août, on sera parti pour jusqu'au mois de novembre à avoir du beau temps, du soleil, sans pluie.
Eh bien, écoutez, bon parapluie et un grand merci à vous, Anatole Justin. À très bientôt.
C'est moi, merci.
Et pour approcher ce caïman noir de 6 mètres de long, eh bien, en général, il faut une luie sans lune. Et je ne sais pas ce que dirait Clara qui nous chante.
Inventer des mots tendres, je devrais à chaque instant la surprendre. Et mademoiselle parle de se pendre, s'il faut attendre. Clara veut l'été, de mars à février.
Love.
La Camargue, le Limousin, le Jura, la Guyane, jusqu'où vont-ils aller? Oui, oui, toujours plus, on va aller encore plus loin, dans une autre réserve naturelle. Il y en a 341 des réserves naturelles en France. Vous avez 275 000 hectares en métropole et puis 2 600 000 hectares en Outre-mer. Évidemment, c'est par là que ça se passe, dans les DOM et dans les TOM. À ce sujet, vous allez avoir le 29e congrès de ces réserves naturelles qui aura lieu la semaine prochaine à Strasbourg. Il va se dire des choses, je pense, tout à fait intéressantes. Et là, eh ben, en ouvrant l'Atlas, à 12 000 km, je vois les Kerguelen, Crozet, Saint-Paul et Amsterdam, autrement dit les terres australes et antarctiques françaises. Et on va rejoindre le chargé de mission environnement, à savoir Cédric Marteau, qui nous attend là-bas. Donc là, c'est vraiment la plus grande réserve naturelle française. Avec, il faut dire, Cédric, tout d'abord, un printemps qui est inversé.
Oui, ben voilà, nous on est arrivé avec le Marion Dufresne aujourd'hui, hein, on arrive de Kerguelen, on est sur l'île d'Amsterdam à 12 000 km dans la réserve naturelle des Terres australes. Évidemment pour nous, le printemps a une autre consonance, on est vraiment sur l'approche hémisphère sud, donc on est automne, début de l'hiver. Hein, contrairement à la métropole où les oiseaux commencent à venir chanter et parader, ben nous, nos albatros sont en fin de reproduction, les manchots sont en pleine reproduction et on est vraiment dans des schémas inversés.
L'île d'Amsterdam et l'île de Saint-Paul, ce sont des réserves naturelles nationales, ce sont des véritables sanctuaires de biodiversité?
Ben, l'île de Saint-Paul est en réserve naturelle intégrale, hein, c'est-à-dire que toute pénétration est strictement interdite, sauf évidemment pour des programmes scientifiques permettant de continuer à suivre les populations animales. L'île d'Amsterdam est en réserve dite classique, hein, et nous avons évidemment une biodiversité extraordinaire, notamment avec de très fortes concentrations d'otaries, hein, plusieurs dizaines de milliers de femelles d'otaries viennent se reproduire chaque année. Et puis, évidemment, l'albatros d'Amsterdam, hein, espèce endémique à l'île, il n'en reste plus, malheureusement, que 30 couples.
On est sur un caillou de 55 km², hein, ce qui concerne l'île d'Amsterdam. Racontez-nous, parce que c'est un oiseau qui a une très belle longévité, hein, il peut vivre une soixantaine d'années. Cet animal, que fait-il en ce moment ?
Alors en ce moment, les albatros d'Amsterdam sont sur leur site de reproduction. Hein. Contrairement aux autres espèces, cet oiseau a un cycle un petit peu décalé, hein, ce qui est apparemment assez étrange et qui a été étudié évidemment. Donc là, les albatros d'Amsterdam sont actuellement sur œuf. Hein. Donc on a 18 nids cette année d'albatros d'Amsterdam sur œuf. Évidemment, l'incubation est très longue, hein, presque 2 mois d'incubation. Et l'élevage va durer pendant tout l'hiver austral, puisque les jeunes albatros qui vont naître d'ici quelques semaines vont s'envoler à partir de novembre-décembre, donc vraiment en fin d'année.
Alors, vous n'êtes pas loin de la sortie, là où vous nous appelez, hein, en sortant donc d'une maison. Vous vous couvrez comment en ce moment, là, un 10 avril pour vous ?
Alors sur Amsterdam, les températures sont correctes l'été, hein, on est en température moyenne annuelle de 14-15 degrés. On n'est plus sur Kerguelen, donc là on a bien remonté le front polaire. Hein. Il y a 4 jours exactement, on était sur Kerguelen avec une température moyenne annuelle de 4 degrés. Donc là on a eu quand même pas mal de vent et des températures, disons fin d'été, début d'hiver à 7 ou 8 degrés la journée. Sur Amsterdam, le temps est très très venteux. On a eu énormément de vent aujourd'hui. Et puis, le temps est assez menaçant, un peu de pluie. La température est correcte. Hein, on est sur du 14-15 degrés.
Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter, Cédric Marteau ?
Ben écoutez, ce qu'on souhaite évidemment ici, c'est que la réserve continue à tourner. Et puis, on peut souhaiter une excellente année de reproduction à cet albatros, en espérant que cette année soit excellente pour cette espèce extrêmement menacée.
Un grand merci Cédric, et puis à très bientôt. Au revoir.
Merci, au revoir.
Voilà ce voyou au son de l'accordéon qui court le dieu doux en poussant la chanson. Entend comme ça chahute dans tous les palpitants, l'hiver se tire des flûtes, enfin le printemps.
Et oui, mis un piaf pour fêter le printemps, c'est tout à fait normal. Alors j'ai sous les yeux notre partenaire Terre Sauvage avec ce numéro du mois d'avril. Une très belle balade en Alsace, donc de l'autre côté de la Lorraine, où nous étions avec Jean-Marie Pelt tout à l'heure. L'or vert du Rhin, parce que le Rhin donc franco-allemand abrite sur ses rives, il faut le savoir, entre Bâle et Karlsruhe, des forêts mais tout à fait extraordinaires, aux allures de jungle. Alors là aussi, des zones humides et des pelouses sèches. Et donc il y a de très très beaux dessins qui ont été effectués par Christian Heinrich. Et puis comme c'est le printemps, eh ben, c'est aussi le moment de la reproduction. Et Fabrice Nicolino, dans ce numéro de Terre Sauvage, eh bien, a percé les secrets les plus intimes de nos congénères. Les trucs infaillibles des séducteurs de la savane, tels la lionne et le lion, qui passent d'ailleurs un mauvais quart d'heure. Les tombeurs du bocage, des astuces pour réveiller les libidos assoupis. Alors c'est aussi bien la femelle requin avec le requin. Vous avez aussi donc le phoque de mer. Alors là, c'est très intéressant parce que l'éléphant de mer, pardonnez-moi. Vous avez l'éléphant de mer. Vous avez 500 kilos d'un côté, c'est la femelle, et 2 tonnes de l'autre côté pour le mâle. Donc, comment font-ils pour ne pas s'écraser? Eh bien, ils y arrivent là aussi. Donc, ça, c'est des animaux qu'a priori, Philippe Carouette, vous avez très, très peu sur le parc du Marcanterre. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Denis. C'est vrai qu'on a la même température en ce moment qu'au Kerguelen, mais les éléphants de mer sont pas encore arrivés en migration.
Eh bien, ça tombe assez bien. Donc, on est dans la baie de Somme, on va le rappeler. Et puis vous me disiez, bah attendez, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, vous allez vous parler de centaines de milliers d'hectares de réserves. Nous, on a une petite réserve de 200 hectares. Non, ne faites pas de complexe quand même. Elle est formidable, là-bas. Donc, réserve naturelle d'État, le conservatoire du littoral. Une actualité quand même, c'est qu'à Abbeville a lieu en ce moment, vient de débuter le Festival de l'Oiseau et de la baie de Somme.
Oui, tout à fait. Oui, le 20e anniversaire, 20 ans de festival, 20 ans de travail entre des bénévoles, des passionnés d'oiseaux, des passionnés de nature pour partager toutes les observations au quotidien que l'on fait sur l'ensemble de la baie de Somme, de l'estuaire de la Brenne à l'estuaire de l'Authy.
Alors racontez-nous dans votre campagne maritime picarde, que se passe-t-il actuellement ?
Alors déjà un super soleil, des très très belles lumières le matin et puis beaucoup d'oiseaux migrateurs qui reviennent d'Afrique puisqu'ils sont 6 mois africains, 6 mois picards et même plus au nord quand ils continuent. Mm-hmm. Donc on a les spatules qui reviennent nicher maintenant depuis une dizaine d'années dans la forêt de pins. On a plein de petits échassiers comme les avocettes. Ce matin, j'ai vu les premiers courlis corlieux qui, eux, ne vont pas rester chez nous. Ils vont aller vers l'Écosse et vers la Scandinavie. Donc, on est sur un grand livre, on tourne les pages, là, et chaque jour, c'est des nouveaux migrateurs qui reviennent.
Est-ce que vous avez votre premier rossignol? Parce qu'il est arrivé en Camargue tout à l'heure, et enfin, c'était au 1er avril qu'est arrivé le rossignol. Chez vous, c'est là maintenant ou c'est...
Et c'est ce matin. J'ai entendu le premier ce matin. Il y en a qui avaient été entendus dans l'Oise et dans le sud de l'Aisne avant, mais j'ai eu mon premier ce matin, puisqu'il ne m'a pas envoyé de carte postale de l'Afrique.
Et oui.
Donc, il est venu ce matin me faire une petite sérénade. Hein.
Racontez-nous les cigognes aussi qui sont arrivées.
Ah oui, là, on a pas mal de cigognes qui sont arrivées depuis le 15 mars, dont certaines avaient été baguées sur le parc du Marcanterre il y a quelques années, il y a 3-4 ans, et on est content de les voir revenir, et surtout les voir réoccuper les nids, et c'est pas triste, parce que dans la vie d'une cigogne, tout tourne autour du nid, non pas autour du partenaire, même si elles ne font pas 500 kilos.
C'est-à-dire qu'elles sont fidèles au nid avant tout.
Fidèles au nid avant tout. Et parfois, on a des vraies surprises. On a un couple là qui est installé, où la femelle, le matin, était tout seule au nid, le mâle était parti se nourrir. Mmh. Et il y a un autre mâle qui est arrivé, qui s'est accouplé avec la femelle et qui est reparti.
Ah oui.
Et une demi-heure après, le mâle officiel est revenu et la femelle l'a accueilli en claquant du bec et tout s'est bien passé, elle ne lui a rien dit.
D'accord, il a rapporté des croissants et donc tout allait bien. Quoi. Donc,
voilà, moralité, oui, fermez votre porte quand vous allez chercher les croissants parce que là, il se passe des choses, c'est les cigognes qu'il ne faut pas toujours raconter. Hein.
Et puis vous observez aussi les oies cendrées. Comment se comportent-elles, ces oies cendrées?
Alors c'est vrai qu'on est un des seuls sites français de nidification de oies cendrées. Hein. Il n'y a qu'à peu près 200-250 couples en France. Et là, on a eu un comportement ce matin en visite guidée où on a bien rigolé parce qu'on a une oie cendrée qui faisait du food tripping.
C'est-à-dire?
Alors, c'est le nom anglais pour faire du pataugeage avec les pattes. Elle tape avec les pattes au sol pour essayer de faire sortir les graines. Alors, normalement, c'est un comportement qu'on voit chez les mouettes, chez les vanneaux, pour faire sortir les vers de terre.
Juste, on va rappeler, que, enfin, me semble-t-il, que l'oie cendrée mange des végétaux, contrairement aux copines et aux copains.
Tout à fait, elle est complètement herbivore. Alors, je ne sais pas, on connaît cette technique-là dans l'eau pour faire remonter les algues, les graines dans l'eau, mais alors sur le sol, je ne sais pas comment elle faisait avec ses pattes. On a vraiment rigolé parce qu'on aurait dit qu'elle jouait des claquettes. On aurait dit Fred Astaire chez l'oie cendrée.
C'est pas mal. Bah, écoutez, un grand merci de nous avoir offert donc cette couleur et ces lumières incroyables sur la baie de Somme, parce qu'avant toute chose, c'est quand même la lumière aussi que l'on vient cueillir. Et donc, merci à vous, Philippe Carouette, et on vous retrouve sur le parc du Marcanterre. Merci beaucoup. Au revoir, Philippe.
Au revoir, Denis, et bon plaisir des yeux et des oreilles.
Merci à Dimitri Grenoff et Grégory Wallon aujourd'hui à la technique, à Marion Lollet, notre assistante, à Jean-Christophe Pinaza et Xavier Pestugia qui réalisait cette émission. Notre cyberdocumentaliste avec son site l'actualité de l'environnement en temps réel, vous pouvez le consulter aussi donc, sur CO2 Mon Amour. Merci donc à Anne Gouzon. La semaine prochaine, là c'est très différent, là je suis dans un village gaulois qui résiste un peu à l'enfouissement des déchets nucléaires. Donc on se voyait du côté de la Haute-Marne, du côté de la Marne, du côté de Bure. Et puis, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans la tuile du Mont Petit Loup. Ce sera demain dimanche, à 19h54, après les petits bateaux. Et dans quelques instants, Fabienne Chauvière, les aventuriers.
À ce moment-là, il y a deux grandes affaires. L'affaire Dreyfus et l'affaire Vacher. Joseph Vacher, non seulement c'est un vagabond, mais c'est un tueur d'enfants. Et une chose qui m'a beaucoup fasciné, travaillant sur les écrits de Vacher, c'est qu'au fond, le monde de Vacher était un monde de l'écrit. La Cassagne va lui demander... à lui, Joseph Vacher, des éléments biographiques, des lettres. La Cassagne est un de ceux, parmi les premiers, à s'intéresser à cet objet-là.
Un peu de criminologie, donc entre le café et le thé. Possibilité pour vous de réécouter cette émission pendant 4 semaines, de la podcaster pendant une semaine. Denis